Chapitre 81. Yuna pousse le bateau à 42 nœuds au large de Tempeludden. Une écume blanche jaillit derrière les deux puissants moteurs du bateau. La glace ne subsiste plus que dans les criques abritées. Les vagues sont sombres comme de l'argile bleue. La proue s'enfonce dans un tunnel de neige formé par les faisceaux des phares. La coque heurte violemment la crête des vagues. Yuna repense à l'homme barbu du club nautique, affaissé sur le côté. De petites gouttes de sang éclaboussaient la neige au rythme de sa respiration haletante. L'homme à la queue de cheval a jeté son couteau de chasse quand Yuna s'est tournée vers lui. « Je prends votre bateau. Mettez un peu de neige sur son nez et allez à l'hôpital quand la tempête sera passée », a dit Yuna. « Les clés sont sur le contact. » Avant de détacher le câble et de s'installer dans le Zodiac, Yuna lui a expliqué qu'il s'agissait d'un cas de force majeure. « À cause de vous ou de la météo ?» a demandé l'autre. Yuna a trouvé une lampe frontale parmi les gilets de sauvetage et les cordages et l'a fixée sur son front tout en s'éloignant du port ravagé. Maintenant, la lumière tremblotante de la lampe frappe le pare-brise de la console de pilotage. Les essuie-glaces arrivent à peine à dégager l'eau et la neige qui se déversent sur la vitre. Les deux moteurs six cylindres rugissent derrière lui. Dans le tunnel de lumière, il aperçoit soudain une grande plaque de glace. Les moteurs la percutent violemment et Yuna vacille sous le choc. Le Mälaren est le troisième plus grand lac de Suède. Entre Västerås, à l'ouest, et Stockholm, il traverse trois provinces. Avec son enchevêtrement de baies, de détroits, d'archipels et d'îlots, vu d'en haut, il ressemble à un filet emmêlé, comme si un enfant avait soufflé des gouttes d'aquarelle en trait fin sur une feuille de papier. Malgré un signal GPS instable, il parvient à se repérer sur la carte marine électronique. Il pense avoir trouvé le meilleur itinéraire vers la maison de Bernard. Le temps presse. La violence de Bernard est dans une phase d'intensification. Elle est devenue hors de contrôle. Il a exécuté des témoins sans pitié, simplement pour éviter d'être découvert. Sa rage prend le pas sur tout le reste. Rien ne semble pouvoir l'apaiser. Hugo est assis près du poêle en faïence et mange sa deuxième saucisse, brûlée en dessous et fendue sur le dessus. Ses pensées se bousculent. Bernard trempe un dernier morceau dans la moutarde, le fourre dans sa bouche, et se sert à nouveau de la salade de pommes de terre. Agnetta a posé son assiette intacte à côté du fauteuil. Elle semble mal en point. Son visage est presque gris et de la sueur perle à la racine de ses cheveux. Le vent continue de rugir dans la cheminée. Les craquements des branches épaisses se succèdent. Hugo tourne le regard vers la fenêtre et retrouve soudain les souvenirs qu'il avait effleurés quelques minutes plus tôt. Il se voit, enfant, gravir dans son sommeil la fenêtre de cette chambre et tomber du toit pour atterrir dans un grand rhododendron. En réalité, il ne se souvient que de la colère de son père, de l'interrogatoire qu'il avait fait subir à sa mère encore et encore, exigeant de savoir pourquoi elle n'avait pas réagi à l'alarme. Bernard l'avait fait pleurer en lui disant que Hugo aurait pu mourir. « Tu n'as jamais raconté ce dont tu te souvenais », lui rappelle Bernard en jetant sa serviette en papier froissé dans les braises. « Quoi ?» demande Hugo. « J'ai parlé de l'accident sur la balançoire. Tu as dit que tu t'en souvenais. Il était petit ?» tente de réagir Agnetta. « C'est pas à toi que je parle », dit Bernard. « Papa, qu'est-ce que tu as ? T'as trop bu ?» demande Hugo en regardant la serviette se carboniser. « Je suis juste curieux », répond Bernard d'un ton forcé mais doux. « Je me souviens d'être tombé du toit et que tu étais en colère contre maman », répond Hugo d'un ton neutre. « Elle était responsable de toi, j'étais en voyage. » On avait installé une alarme de mouvement dans ta chambre. « C'était un accident, » dit Hugo. Le regard de Bernard se déplace. Hugo le suit jusqu'à la lampe sur pied. La lumière pulsante des braises dans le poêle donne au motif peau de serpent un aspect vivant, comme s'il respirait. Le corps de Hugo se tend lorsque lui reviennent quelques fragments de l'hypnose. Il ne se rend même pas compte qu'il laisse tomber son verre par terre. Soudain, Hugo est petit. Baigné dans une lumière rose palpitante, regardant dans cette chambre à travers la vitre de la porte du couloir. Son père a fabriqué un poncho avec le rideau de douche noire de la salle de bain du sous-sol, celui avec des têtes de mort et des os croisés. L'estomac de Hugo se retourne et il déglutit plusieurs fois avec difficulté. Crâne, fémur, cage thoracique, rotule, articulation de doigts. Des images défilent, se succèdent dans sa mémoire vibrante. Il sent des picotements au bout de ses doigts. Il voit son verre couché sur le parquet. Quelques gouttes de vin ont éclaboussé les lames de bois clair. Il murmure une excuse, le ramasse et efface les gouttes avec son pied. « Tu es tombé du toit, » dit Bernard. « Ça va ?»«
Ce n'était pas sa faute, » répond Hugo.
« Peut-être pas. »«
Il faut que j'aille aux toilettes, »
murmure Agnetta en essayant de se lever de son fauteuil. « Reste assise, » dit Bernard.
« Mais je dois vraiment... »«
Pas maintenant, » la coupe-t-il en saisissant de nouveau son poignet.
« Papa, arrête !» dit Hugo.
J'étais en déplacement. Claire était responsable de toi. On avait mis un détecteur de mouvement et pourtant tu es tombé du toit, raconte-t-il en relâchant Agnetta. La fois suivante, alors que je devais partir pour une rencontre d'auteur, je suis resté dans la cave.
Qu'est-ce que tu as fait ?
Demande Hugo avec un filet de voix. Bernard se lève, prend la hache dans le panier à bois, pousse Agnetta dans le couloir et la suit. La porte de la salle de bain se ferme et le verrou claque. Hugo se lève chancelant et sort lentement à leur suite. Son père monte la garde dans la pénombre devant la salle de bain. La tempête rugit. Hugo avance prudemment sur le parquet rayé et regarde le reflet de son père dans la porte vitrée à croisillons, la hache dissimulée derrière lui. Il distingue sa propre silhouette comme une ombre dans l'embrasure rougeoyante de la chambre.
« Qu'est-ce que tu as fait à maman ?»
demande Hugo, figé par l'angoisse. « Rien, » répond Bernard sans le regarder. « J'ai fait émerger la vérité. »«
Elle n'est jamais allée au Canada, c'est ça ?»
murmure Hugo, soudain plongé dans un sentiment d'irréalité. « Bien sûr que si. « Tu le sais. »«
Papa, j'étais somnambule, mais je voyais tout. »«
Tu rêvais. Ce n'était qu'un rêve, » répond Bernard en se tournant vers lui. Hugo est percuté par les images de son souvenir, un choc violent, sombre comme la mort. Il est derrière la vitre. Il regarde dans la chambre et voit que le visage de son père est recouvert de petites taches, comme s'il avait la varicelle. Il voit du sang couler sur les crânes et les os du rideau, la hache dégoulinante dans sa main et un pied tranché sur le sol devant lui.
« Je t'ai vu tuer un homme. Ici, dans la chambre, » murmure Hugo en s'humectant les lèvres.
« Mais qu'est-ce que tu as fait à maman ?» l'interrompt Hugo. « Ça ne s'est pas passé comme je le voulais, » constate Bernard d'un ton détaché.
Qu'est-ce que tu lui as fait ?
Tu ne comprends pas, dit Bernard avec un sourire étrange. Je crois vraiment que tu serais mort si je n'étais pas intervenu à temps.
Arrête ! Coupe Hugo.
Non, je n'arrêterai pas, répond Bernard en laissant apparaître la hache devant lui. Un silence absolu règne pendant un instant. La sensation d'irréalité a totalement disparu et une terreur brute tambourine dans la poitrine de Hugo avec une force insupportable.
« Papa !»
murmure Hugo en reculant d'un pas. « Tu comprends bien que je ne pourrai jamais te faire de mal, » dit Bernard en regardant la hache.
« On va s'en sortir, papa. Tout va s'arranger, »
le rassure Hugo en passant une main tremblante sur sa bouche. « Tout va s'arranger, » répète Bernard.
« On va en parler à la police. » Toi et moi.
D'accord.
Tu n'as pas besoin de la hache. C'est fini.
Mais Agnetta ne comprendra jamais.
On lui expliquera. Ça va s'arranger. Elle se taira. Pour moi,
dit Hugo en sentant son corps entier trembler. Je pense que même toi, tu ne garderas pas le silence, réplique Bernard froidement.
Bien sûr que si.
Mais non. Ce n'est pas sûr du tout. Absolument pas sûr. C'est un choix qui t'appartient, poursuit Bernard. Mais moi, je ne me laisserai pas arrêter par Agnetta, ni par la police, ni par...
Papa, écoute-moi.
C'est à toi de m'écouter, l'interrompt-il.
Ok, je t'écoute.
Le dos de Hugo est trempé de sueur. Il n'arrive pas encore à assembler tous les éléments, mais il comprend que le meurtre dans la chambre était réel, et que c'est aussi son père qui a tué l'homme dans la caravane. Mettre un enfant au monde, c'est une grande responsabilité. On ne peut pas la balayer comme ça, dit Bernard en se passant la main dans les cheveux.
Je suis d'accord, murmure Hugo.
Tu sais que mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, pour une fille qui travaillait dans un cirque. Tu peux y croire ? Une Bulgare qui travaillait dans un cirque, répète-t-il en souriant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis resté seul avec ma mère. Ça ne se passait pas très bien, mais j'ai survécu. Miraculeusement, on pourrait dire.
On peut retourner dans la chambre ? Tente Hugo.
Tu ne comprends pas.
Il faut que ce soit fait.
C'est juste, dit Bernard en regardant de nouveau la hache dans sa main. Peut-être que c'est allé un peu trop loin, mais je le fais pour les enfants. Au début, je me sentais presque comme un super-héros.
Allez, viens.
Non, arrête, putain. Laisse-moi t'expliquer. Tout est lié. Tu étais tout petit. Tu faisais des crises de somnambulisme, explique Bernard en tapotant nerveusement la porte de la salle de bain. Tout ce que ta mère devait faire, c'était veiller sur toi, venir dans ta chambre quand l'alarme se déclenchait, s'assurer que tu retournes bien au lit, que tu ne te blesses pas. Mais elle avait autre chose à faire.
Je comprends que tu te sois mis en colère.
J'ai essayé de croire que c'était exceptionnel, qu'elle avait compris la leçon. C'était sérieux, tu aurais pu mourir. Mais quand ça s'est reproduit 2 semaines plus tard, j'ai explosé. C'était insupportable. Je n'avais qu'une certitude. Ça devait s'arrêter là, maintenant, dit-il en pointant le sol du doigt.
Pour moi.
Pour toi. Pour moi. Pour tous ceux qui... Je sais pas. Je n'ai pas terminé. Loin de là. Mon feu est le plus fort de toute la Suède, clame-t-il en frappant à la porte de la salle de bain.
Laisse-la tranquille.
Ouvre, crie-t-il. De toute façon, personne ne lira ce que tu écris sur ton téléphone. Il faut que tu comprennes ça. Je vais tout effacer, tes putains de témoignages, tes petits mots d'adieu à la con, peu importe ce que c'est.
Je veux pas que tu parles comme ça,
souffle Hugo en s'avançant.
Non,
soupire Bernard en reculant d'un pas.
Ce qui est fait, papa.
Mais maintenant c'est fini, dit Hugo doucement en se glissant entre lui et la porte de la salle de bain. Son cœur bat si fort qu'il en ressent les pulsations dans sa gorge et ses narines. Le verrou claque. Agnetta ouvre la porte, s'appuie contre le chambranle, quitte la salle de bain et passe devant eux dans le couloir. Bernard lève les yeux et regarde son fils. La respiration d'Agnetta est saccadée lorsqu'elle commence à descendre l'escalier. Hugo lève doucement ses paumes pour essayer de calmer son père et se décale pour l'empêcher de la suivre.